Alors toujours à 40e festival de BD d'Angoulême, nous accueillons maintenant Alex Spiro des éditions Nobro, un éditeur dont on a régulièrement parlé. Bonjour Alex.
Bonjour.
C'est donc tout au long de l'émission, je pense qu'on a chroniqué pas mal de bouquins de cette maison d'édition. Alors je vais la resituer un peu. Donc c'est une maison d'édition qui voit le jour à Londres en octobre 2008. Donc tu es le cofondateur avec Sam Arthur et qui a vraiment une envie de remettre en avant le travail du livre, du papier, de la qualité d'impression avec des auteurs qui sont venus des quatre coins du monde et pas forcément du monde de la bande dessinée.
Oui.
Je pense que ça résume un peu l'idée de la structure parce que c'est vrai que c'est quelque chose quand on avait déjà fait une petite interview il y a un an je pense où l'idée c'était de pouvoir faire venir des gens qui venaient de l'animation, du graphisme et de pouvoir les réunir. Est-ce que ça reste finalement cette volonté 4 ans maintenant, 4 ans plus tard, bientôt 5 ans plus tard, est-ce qu'elle est toujours là? C'est-à-dire que c'est toujours le moteur de Nobro, c'est de partir sur cette base-là. Est-ce que vous poursuivez 5 ans après cette idée ou est-ce que vous avez déjà essayé d'élargir le champ ou réduire le champ?
À un certain point, on ne peut pas éviter de travailler maintenant avec des auteurs de BD parce que en fait on leur a donné leur première opportunité de faire des BD, ils ont appris et maintenant c'est des auteurs de BD. Mais en fait en Angleterre, puisque la culture de la BD est pas très forte et la plupart des auteurs de BD ils travaillent pour des maisons d'édition américaines, c'est-à-dire ils font des BD pour Dark Horse ou DC. Il y a plein d'auteurs qui font Batman et en fait qui sont anglais, mais des auteurs qui font des choses uniques anglaises, des nouvelles histoires, des nouveaux personnages. C'est pas vraiment quelque chose qui existe dans une façon très développée en Angleterre. Et donc on doit toujours continuer à essayer de développer des gens qui ne sont pas nécessairement dans le métier de la BD parce que il n'y a pas assez d'artistes ou d'auteurs qu'on peut travailler avec pour vraiment avoir une liste très très grande de beaucoup d'auteurs. Donc on essaie toujours d'attirer des nouveaux talents. Mais ça prend du temps, bien sûr, parce que avec Luc, il aimait bien la BD et John aussi, mais ils ont appris un peu à faire la BD à travers faire des BD pour nous. Donc ça prend un an, deux ans parfois, et c'est une façon assez Bah, c'est la seule façon qu'on peut le faire, en fait, en ce moment, je pense.
Pour reparler historiquement, est-ce qu'il y a finalement une... je me suis posé la question, parce que j'ai eu l'impression que, par exemple, dans la bande dessinée belge, il y a une sorte de décennie de flottement entre l'école de Marcinelle, tous les grands classiques, toute la période de Spirou, et une nouvelle génération d'auteurs qui est arrivée. J'ai l'impression que ce flottement était peut-être dû à un moment où on avait besoin de faire de prendre du recul ou que le poids des était trop fort, que ce soit d'Hergé ou de tous les autres, qui fait que ça a un peu phagocyté une génération d'auteurs qui ne savaient pas comment se situer ou comment sortir de la ligne claire ou comment sortir de tout ce qui avait été installé et qui était particulièrement pesant, je crois, à un certain stade, et qu'il a fallu attendre un peu avant d'avoir une nouvelle génération qui arrive, qui décide de recréer ses codes ou de revenir sur son héritage. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a la même chose justement en Angleterre avec une génération d'Alan Moore, Neil Gaiman, tout un tas de scénaristes ou de dessinateurs, David Lloyd et autres qui ont finalement bouleversé la bande dessinée on va dire même à un niveau international mais principalement aux États-Unis, qui finalement ont créé une sorte de façon de penser la bande dessinée, de faire la bande dessinée comme on le ferait donc à la façon de ce qu'ils appellent la British Invasion. Voilà, c'est la méthode de cette génération-là. Est-ce que ça, tu crois, a eu un impact sur, voilà, sur le fait qu'il y ait une génération qui a été plus difficile à trouver ou des auteurs qui n'ont pas émergé à un moment ou qui ont directement été aux États-Unis où finalement il y a eu ce flottement?
Oui, je pense que oui, c'est vrai que qu'Alan Moore et Neil Gaiman et tous ces gens-là ont vraiment facilité un transfert entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et puisque l'argent est vraiment aux États-Unis pour la BD, ça a continué comme ça un peu. Et c'était une question pour nous d'essayer de créer une atmosphère où les gens, où les auteurs qui font du matériel pour des autres audiences, soit pour des enfants ou des adultes, mais des BD qui sont moins conventionnelles dans ce sens-là. Ce qui était dur, c'est vraiment c'était de créer un marché où il n'y avait pas vraiment un marché. Et donc, il y avait déjà ce que faisait Fantagraphics, c'est Drawn and Quarterly, qui marchait pas mal en Angleterre, mais il n'y avait rien de homegrown en Angleterre. Et même avec des choses comme Fantagraphics et Drawn and Quarterly, ils vendaient encore pas des milliers de livres, hein. C'était 500, 600, peut-être parfois 1000 si ça marche bien. Et donc, pour nous, ce qui était dur, c'était vraiment de démarrer un nouveau marché pour un nouveau style de comique, un peu, bon, inspiré un peu par ces entreprises-là, mais aussi quelque chose de différent avec des caractéristiques uniques, non seulement anglaises, mais aussi européen. Et là c'était assez dur en fait au début parce que il fallait qu'on fasse beaucoup d'événements, beaucoup qu'on visite beaucoup de collèges d'art pour expliquer vraiment aux gens, à une génération d'artistes et d'illustrateurs, qu'il y avait quelque chose qui est très, très cool, très sympa, qui n'est pas des super-héros ou Watchmen, ou, vous voyez, des choses comme ça, qui est sympa, que vous allez aimer, que c'est des bonnes histoires, c'est des histoires originaux. Et là, ça nous a pris du temps quand même, parce qu'au début, c'était comme pour Fantagraphics et Drawn and Quarterly, on vendait 500, 1000, c'était pas des grandes choses. Mais maintenant, après 4 ans, quand on fait un tirage, par exemple pour Ida, on vend, je sais pas, 3000, 4000 dans 6 mois. Et là, ça nous a pris longtemps à créer ce marché. Mais c'est vraiment, on a essayé plein de choses. Certaines choses ont marché, d'autres choses n'ont pas. Et là, ce qu'on a essayé de faire, puisque on a vraiment dû être assez sage en termes de business pour survivre, on a vraiment ciblé sur les choses qui marchaient bien. Et on a essayé toujours de développer plus de choses dans ce veine-là. Et donc, mais bien sûr qu'on fait toujours des choses. On essaye des choses toujours nouvelles et il y a toujours des choses qui ne marchent pas. C'est normal.
Parce que vous êtes presque obligé en fait de faire. On parlait juste avant avec Francky Ballonnet des Requins Marteaux, qui avait une volonté de faire des premiers livres.
Oui.
Ici, vous êtes de toute façon obligé de faire des premiers livres,
voilà.
Quasiment avec la grande majorité des auteurs que vous avez dans le catalogue.
Oui.
Là, il n'y a pas vraiment de choix pour vous.
Non, pas vraiment. Non. Ce qu'on peut faire, bah, ce qu'on commence à faire maintenant, c'est aussi d'essayer de donner du accès, puisqu'on a maintenant la diffusion assez solide en Angleterre. C'est de prendre des livres français ou allemands, qu'on trouve représente vraiment ce qu'on aime dans la BD et ce qu'on veut faire nous, et de faire des traductions pour que les gens puissent accéder à ces histoires-là. Donc on a commencé à faire un peu ça pour pouvoir choisir d'autres histoires, d'autres personnages, des artistes, et vraiment je pense que une entrechange entre nous, la Grande-Bretagne et l'Europe et la France et la Belgique, c'est vraiment quelque chose qui va nous aider à agrandir le marché de la BD indie en Angleterre.
Tu parles de marché, je me souviens par exemple, je crois que c'était l'année passée sur Angoulême, tu me parlais de la bande dessinée Forming de Jess Monien.
Oui.
Et tu te posais des questions sur est-ce qu'il faut le traduire en français ou pas. Je me souviens qu'on avait eu cette discussion parce que c'est un livre particulier qu'on avait tous adoré, mais qui effectivement a une touche qui pourrait être peut-être plus anglo-saxonne ou plus différente. Et il y a vraiment une réflexion. Et je voulais savoir quel était votre rapport justement à ces questionnements. Quel est votre rapport au marché français? Comment vous le sentez? Est-ce qu'il réagit bien ou est-ce qu'il réagit de façon beaucoup plus surprenante que vous l'imaginiez en mettant où les livres traduits, certains vont vraiment bien marcher? C'est vrai que vous avez plus ciblé par exemple sur Luc Pearson ou John McNaught qui sont, je crois, effectivement plus faciles pour un marché français parce qu'on est plus habitué soit à l'influence d'un côté de Chris Ware avec une certaine esthétique et d'un autre côté pour Luc Pearson une bande dessinée tout public d'aventure qui fonctionne bien mais qui est dans la culture franco-belge très ancrée. Oui. Comment vous vous situez par rapport à... Est-ce que vraiment vous avez le sentiment qu'il y a deux marchés, un marché anglais ou un marché anglo-saxon et un marché français francophone qui serait assez différent?
Oui, je pense que c'est... Oui, effectivement, c'est comme ça. Mais nous, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est vraiment de faire des choses qui attirent tout le monde. Et donc, je pense que c'est des... Avec John et Luc, ces deux artistes qui ont vraiment pu... ils ont vraiment pu attirer les gens en France et en Angleterre dans une façon assez égale à cause du fait que même s'ils ont des influences, ils font quelque chose vraiment de nouveau, qui n'est pas strictement franco-belge avec La Parade des Oiseaux ou américain avec ou Chris Ware avec Autumn. Et là, je pense que c'est peut-être les objets, c'est là où les objets deviennent importants parce que si l'objet est beau, les gens vont arrêter de penser à leur préconception de ce qu'ils veulent, ou ils vont prendre le livre parce que c'est beau et après ils vont donner le temps de leur faire plaire. Et c'est à travers le graphisme vraiment et bien sûr l'histoire, mais d'abord c'est le graphisme qui va attirer les gens, et ensuite il faut avoir des bonnes histoires et des bons personnages. Mais je pense que c'est ça, c'est là où on essaye de, comme on dit en anglais, to bridge the gap entre les différents pays. Et je pense que ça marche. Bon, ça marche bien sûr avec certaines choses et pas avec autres. Comme on parlait de Jesse Moynihan et Forming. Mais Forming, bon, je ne dis pas que ça marche super bien en Angleterre ou en Amérique non plus. Hein. C'est quelque chose de très particulier. Et c'est vraiment, s'il y a une audience, une grande audience potentielle pour quelque chose, même si on fait quelque chose de left field, de différent, il doit encore avoir le potentiel de cette audience. Avec Forming, c'est quelque chose que les gens comme nous aiment parce qu'on aime bien les BD, on aime d'humeur un peu crasse et des sujets un peu fantastiques comme ça, mais la plupart des gens ils le voient et l'art est pas vraiment accessible, c'est un peu bon, c'est juste, c'est quelque chose qu'il faut vraiment aimer pour passer le temps à lire tout le livre. Et bon, c'est des choses comme ça, généralement, je trouve, si ça ne marche pas en Angleterre, ils ne vont pas marcher en France ou en Allemagne. Et avec ces deux livres-là, ça pourrait marcher en fait n'importe où, en théorie. Et c'est ça ce qu'on essaie de faire. Mais bien sûr, les deux, ils ont évolué aussi, hein, parce que Luc et John, hier, on disait que John n'a pas utilisé des mots dans ses BD au début, et il a progressivement il a ajouté des mots, des sons. Oui, désolé.
Non.
Maintenant il a du dialogue, et peut-être la prochaine fois il va en avoir plus, donc c'est une évolution en fait.
Le fait que la scène de bande dessinée en Angleterre était quasi inexistante, vous avez vraiment joué un rôle de moteur là-bas. Est-ce que vous avez inspiré de nouvelles structures? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent? Est-ce qu'après vous, il y a d'autres maisons d'édition qui se montent en Angleterre?
Oui, de petit à petit. Aussi, ce qu'il y a qui est très bien, c'est en fait une série d'anthologies qui commence à sortir. C'est pas vraiment des zines, c'est plutôt des journaux, c'est comme des journaux en fait, et c'est des groupes d'artistes de 6 ou 8 artistes qui font des choses ensemble, et donc eux ils diffusent gratuit un peu partout, et ça aide parce que ça aide à faire comprendre à plus de gens, puisque c'est gratuit, que ce que c'est la BD, ce que ça peut être aussi. Et ça a commencé, et ça, je pense que c'est vraiment bien. Aussi, il y a plein de petites presses. Et bien sûr, pour commencer une maison d'édition, il faut de l'argent, il faut s'investir dedans. Et c'est des choses qui prennent du temps quand même. Mais je pense qu'il y a on dit en anglais un groundswell qui commence, et ça c'est bon pour nous parce que ça veut dire que les artistes qui travaillent dans ces petits collectifs, ils se développent, et après on a plus de choix, comme on parlait avant, qu'il n'y a pas beaucoup de choix en Angleterre, disons, pour les auteurs. Maintenant, il y a beaucoup plus de choix, et je pense que oui, je pense que ça a commencé quelque chose de très bien pour la BD. Bien sûr, il y a d'autres maisons d'édition qui ont commencé un tout petit peu en même temps que nous, comme Self Made Hero et Blank Slate. Et eux, ils font leur boulot aussi de commencer un peu, de développer des artistes jeunes. Et ça, je trouve vraiment très, très bien. Et sans eux, ça ne serait pas un mouvement vraiment. Ça serait juste... tout seul et quand il y a un tout petit peu d'un mouvement en fait, quand il y a plusieurs éditeurs, ça rend plus facile les ventes aussi,
bien sûr. Oui, ça crée une dynamique.
Oui.
Comment est-ce qu'on va chercher quelqu'un comme McNaught? C'est un personnage assez timide, assez discret. Vous avez été le chercher, ou est-ce qu'il s'est présenté, ou quelque chose comme ça?
Non, là, on l'a cherché. En fait, John, il faisait ses propres BD à main. C'était un technicien dans un collège d'art, dans le print studio, en fait. Il faisait ses BD lui-même, et ils étaient très très petits et faits à main, seulement 12 pages, quelque chose comme ça. Et je les ai vus sur son site en fait, parce que moi je regarde toujours sur Flickr, ou je suis toujours sur des sites des illustrateurs. Et lui, c'est un illustrateur, et quelqu'un m'a dit: regarde ça, c'est vraiment cool. J'ai vu son travail et je lui ai demandé d'agrandir un peu le contenu, Et comme ça, on a commencé avec Birchfield Close. Mais c'était vraiment, oui, je dirais, c'était moi qui l'a cherché. Et souvent, c'est comme ça, parce qu'avec Luc aussi, il a fait un dessin pour une compétition qu'on a fait pour un livre illustré. Et j'ai vu ses dessins et j'ai dit, bah, ce gars, sûrement, il peut faire de la BD. Hein. Il avait tout été là. Et après, j'ai passé sur son site encore et j'ai vu qu'il commençait à essayer de faire des BD. Et je lui ai dit d'essayer son première histoire. C'était Ida Folk dans la série 17x23. En fait, 17x23, c'était très important pour ça parce que c'était un format qui permettait les gens les jeunes artistes de raconter des histoires en 24 pages. C'est pas quelque chose de bon, c'est pas 120 pages et quand ils ont 21 ans, ils ont pas assez d'histoires, je pense, pour remplir vraiment 120 pages avec du contenu vraiment solide, à mon avis, ben, en Angleterre. Et donc ça lui a permis vraiment de développer lui-même. Et c'est un peu le même avec John, en fait. C'était vraiment organique. Ça a grandi, on a grandi ensemble, en fait.
Ok. Alors, tu parlais tout à l'heure que votre stratégie était une stratégie très plastique. C'est-à-dire que c'est la beauté d'un dessin qui va amener la personne à s'intéresser à l'histoire. Mais il y a aussi la beauté de l'objet. Enfin, tu en parlais d'ailleurs aussi. Et par rapport à ça, vous avez commencé très, très fort dès le début de votre histoire avec des livres qui avaient vraiment une présence très, très forte de très beaux objets qu'on a envie de prendre avec des techniques d'impression vraiment dominées. Et de ce côté-là, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a un background qui fait que vous avez directement pu faire ça? Parce que la plupart des gens qui commencent font des erreurs d'impression énormes, des bouquins cartonnés alors qu'ils n'ont pas les moyens, ou des trucs photocopiés dégueulasses alors qu'ils devraient soigner ça.
Ben, en fait, moi je suis graphiste et illustrateur aussi. J'ai étudié à St. Martin's et j'étudiais le book design, le graphisme du livre. Et au début, on a imprimé pas mal de choses à main, en sérigraphie, et on a commencé à faire un peu des choses comme ça. Et les premiers livres qu'on a faits, ils étaient petits ou seulement... En fait, la raison pour laquelle il y a peu de couleurs, ou c'est des couleurs limitées, c'est à cause du fait que c'était moins de...
passage.
Ouais, c'était moins... less plates. Dans la lithographie, normalement, c'est 4 couleurs. Et donc, avec 2-3 couleurs, c'est 200, 400 livres, 600 livres moins les coûts de l'imprimerie. On a commencé avec des choses pas cartonnées, mais floppy. Et des livres très petits, comme celui de John McNaught, des livres avec 2 couleurs. Et donc, c'était vraiment... C'est marrant parce que c'est les choses qu'on a fait pour sauver de l'argent qui a fini par nous... différencier, voilà. Mais bien sûr, je suis entraîné autant de graphistes et ça aide certainement. Et je connais la sérigraphie très bien et j'ai même fait etching, je sais pas comment dire en français. Mais l'imprimerie, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et donc, je pense que c'est pour cette raison-là qu'on n'a pas fait ces erreurs au début.
Avec Hilda notamment, vous touchez un public d'enfants. Est-ce que vous avez la volonté de développer un pôle jeunesse chez Nobro?
Oui. Ce qu'on a fait, c'était intéressant d'entendre ce que... Frankie, oui. Parce qu'il parlait du fait qu'à un certain point, il a réalisé qu'il fallait faire quelque chose de mass market. Il a fait le BDQ. Ça, c'est une façon de faire les choses. C'était bien sûr ce que Gary Groth a fait aussi à un certain point. Et nous, on a vu que pour nous, le marché enfantile, c'était quelque chose qui marchait assez bien. Et on a décidé d'aller dans l'autre direction. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des livres avec des sujets adultes. Mais Mais oui, en fait, on va lancer une marque pour enfants. Et je pense que là, ça nous donne plus de...
De visibilité aussi sur le marché.
De visibilité sur le marché. C'est aussi quelque chose qui est très bien développé en Angleterre. Et peut-être à travers ça, on va faire intéresser les jeunes gens, les enfants dans la BD. Et ça peut marcher. Espérons que ça marche.
Justement, on peut commencer à parler de faut clôturer tout doucement. Donc, on peut poser la question de savoir quel est l'avenir de Nobrow à court terme. Donc, est-ce que vous avez des livres? Et puis, si on peut parler du long terme, là, il y a visiblement une perspective de durer dans le temps, d'installer un public, d'installer des auteurs aussi, enfin, donc de créer une génération d'auteurs. Et par quoi ça passe? Quelles sont les prochaines étapes que Nobrow entreprend?
Maintenant, donc, on va lancer la marque pour enfants en février. Ça s'appelle Flying Eye Books. Là, on a 15 livres dans le premier an. Et ils sont, c'est des BD, mais aussi des picture books.
En anglais ou en français après?
Pour les livres, ça va être plutôt en anglais. Pour les livres enfants, et on va essayer de vendre des droits à des éditeurs français, parce que là c'est un marché qui est saturé en France, et je pense que si on travaille avec des éditeurs comme Gallimard ou Sabarkan ou des gens qui ont vraiment du bon accès au marché, ça peut être bien pour les livres et pour nous aussi. Mais on va commencer en Angleterre et en Amérique, puisqu'on a maintenant un peu d'accès au marché en Amérique. Et on va faire aussi des autres livres de Luc Pearson. Et ça, on va continuer à faire sur la marque Nobrow en France. Mais on va aussi commencer à faire plus de traductions des livres qu'on a fait il y a un an ou deux ans. Et on va bien sûr essayer de développer plus de contenu pour adultes, pour le marché français, avec des auteurs anglais et américains, dans le style, en fait, dans des styles albums, mais aussi des formats intéressants. Toutes les choses sont encore un peu en fabrication, en développement, mais on espère de sortir encore 12 livres Nobrow dans la prochaine année. Et donc il y a beaucoup de travail, mais ça commence à marcher bien. Et en fait le fait de vendre en France, en Belgique, en Amérique et en Angleterre, ça nous permet d'investir un peu dans la marque pour enfants. Et ça va aussi nous permettre de développer plus la marque Nobrow, parce que là, bon, à la fin de la journée, l'argent est important dans ce métier, parce que c'est très facile de perdre beaucoup d'argent. C'est toutes les choses qu'on fait, c'est des risques en fait, et c'est comme si on est dans un hedge fund, je sais pas comment le dire en français, mais on met beaucoup de petites sommes d'argent. C'est des grandes sommes d'argent, mais on met des sommes d'argent dans beaucoup de projets, et il y a peut-être deux ou trois qui vont marcher, les autres ne vont pas. Donc avec la marque enfantile, si on a un succès, c'est quelque chose qui va nous permettre vraiment à avoir des fonds pour développer beaucoup plus le marché BD en Angleterre. Et c'est pour ça, en fait, c'est une des raisons qu'on veut bien le faire. Mais si ça marche avec les livres pour enfants, c'est bon pour nous aussi, parce qu'à la fin de la journée, on veut faire des beaux livres. N'importe quelle forme ils prennent, tant qu'on fait des beaux livres, ça nous fait plaire. Voilà.
Voilà, un grand merci en tout cas. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite pour les années à venir, continuer à développer. Et puis, je pense qu'on est très curieux de voir ces livres jeunesse arriver. On regardera avec beaucoup de plaisir. Un grand merci, Alex.
Merci. Merci à vous aussi.